bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et ton amour. Merci, Père Céleste, parce que tu veux nous enseigner les principes de ton royaume. Tu veux que nous puissions avancer avec toi, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te voir dans nos vies. Je parle ta parole sur cette église. Je parle ta parole sur chaque frère et sœur ici. Je parle ta parole parce que ta parole est puissante, Seigneur. Et tu veux, mon Père, que nous puissions entrer dans les dimensions du royaume, hein, que nous puissions voir ton royaume se manifester au milieu de nous. Je prie pour chaque personne ici. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as une parole pour chaque personne ici. Merci parce que tu nous construis. Tu nous aides à aller de l'avant. Tu nous fais, Seigneur, aller dans ces dimensions dont nous avons besoin de connaître dans ton royaume. C'est pourquoi je prie pour que tu illumines les yeux des cœurs encore ce soir, pour que tu encourages, Seigneur, celui qui est découragé, que tu donnes une vision à celui qui ne sait pas où il va, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse avoir une vision de savoir, je vais là où Dieu me veut. Père, je te loue pour cela. Je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Salut deux ou trois personnes autour de toi. Accueille-les dans le nom du Seigneur. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'éternité. Amen. Vous êtes heureux d'être là ce soir? Amen. Nous allons passer une bonne soirée d'enseignement parce que c'est mon ministère principalement. D'enseigner le peuple de Dieu. Et vraiment, mon désir, c'est de voir. J'ai pas plus de joie que de voir des vies restaurées, de voir des gens être touchés par la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Il y a des moments dans notre ministère où nous prions pour les gens. Tout dépend comment le Seigneur nous dirige. Et nous enseignons, nous construisons et nous aimons voir des vies restaurées. Amen. Parce que Dieu est dans le business de la restauration des vies. Dieu n'est pas dans le business de la religion, Dieu n'est pas dans le business de faire des églises en fait. Dieu est dans le business de la restauration des vies, dans le cadre de l'église locale. Amen. C'est ça qui est important à comprendre. Dieu veut nous restaurer. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus de retour, sinon je vais casser ma voix, ma petite voix d'enseignant par rapport à la grosse voix du pasteur Fofi. Chacun sa voix. Et en fait, Dieu veut nous restaurer dans tous les domaines. D'abord, il nous sauve, il nous amène dans son royaume, il pardonne nos péchés, il fait de nous ses enfants, mais ça c'est le début. Rappelez-vous, vous vous rappelez que c'est votre esprit qui est né de nouveau. Hein, vous vous rappelez, on a vu cette leçon hier, hein, je vais faire un petit résumé. Mais nos mentalités n'ont pas été changées. Et nous sommes malades dans nos mentalités. Quand nous recevons le Seigneur, nous sommes malades de tout ce qui s'est passé avant dans nos vies. Bien évidemment, nous avons des conséquences. Et nous sommes aussi malades de la langue. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades de la langue. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es malade de la langue? Il va falloir que tu guérisses. Amen. Beaucoup de gens sont malades avec leur langue. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont malades dans leur comportement. Et malheureusement, ça s'appelle un chrétien charnel. Voilà, c'est ce qu'on voit. Et il faut qu'on grandisse, il faut qu'on soit transformé. Et Dieu veut nous transformer dans tous les domaines. Il veut d'abord que nous ayons une puissante relation avec lui. Ensuite, il veut que nous ayons aussi de bonnes relations avec nos semblables. Vous savez, nous avons besoin de vivre dans la paix. Tu ne vivras jamais dans la paix si tu n'as pas de bonnes relations. Si tu es toujours en guerre, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, paf, ça pète, tu es là, tu disputes, ou il y a des histoires où tu rentres comme ça impulsivement dans une relation, et ça se passe mal à chaque fois, ça veut dire que tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu ne prospères pas. Ah, prospérer, oui, nous sommes en train de parler de la prospérité. Et la prospérité, c'est l'épanouissement. Vous vous rappelez, 3 Jean 2 nous le dit, hein, que en fait, Dieu veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme, prospérer à tous égards. On parle de la prospérité financière ici parce que mon sujet c'est les finances, mais c'est dans un cadre, c'est ce que je veux vous expliquer, je continuerai à vous expliquer, c'est très important. C'est dans le cadre de l'épanouissement complet de qui vous êtes, de votre personnalité. Parce que souvent, les gens se focalisent sur un point ou un autre et disent, moi, je veux vivre dans l'esprit. D'accord, tu peux vivre dans l'esprit, mais si ta vie est un échec à côté de ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu ne prospères pas réellement. Tu peux prophétiser, tu peux prier en langue, tout ça, c'est très bien. Ça fait partie de notre héritage en Christ, ça fait partie de ce que Dieu veut. Tu peux recevoir des révélations, Dieu peut te parler, d'accord. Mais dans tout le reste, comment tu vas te comporter? Si dans tes relations, c'est pourri, tu peux dire, le Seigneur m'a dit, mais si on voit que tes relations sont pourries, c'est que tu as un problème sérieux. T'as un problème très sérieux. Ou si financièrement, tu ne t'en sors jamais, alors que tu as de bonnes relations, alors que tu aimes les choses de l'esprit, tu aimes la parole de Dieu, ça veut dire que dans ce domaine-là, tu as besoin de te développer. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que tu as besoin de changer tes mentalités. Voilà, c'est ce que nous essayons et c'est ce que nous faisons petit à petit. Je vous rappelle que c'est une série d'enseignements dont on construit petit à petit, étape après étape. Un enseignant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Un prédicateur, lui, il a 20 minutes pour vous faire sortir de l'enfer. Vous vous amenez à la guérison, vous amenez au baptême de l'esprit. Moi, j'enseigne. Donc, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'on est construit dans nos mentalités. Amen. Chacun son ministère, chacun son onction. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu qu'il y a 5 piliers de notre prospérité. D'abord, la connaissance. C'est là où nous en sommes. Connaissance et changement de mentalité. Ensuite, la foi. C'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est semence et récolte, cette loi spirituelle dont nous allons parler. Ensuite, c'est le travail et l'excellence au travail, la mentalité au travail. Nous allons aussi en parler. Et enfin, c'est la gestion de nos finances, avec toutes les bêtises qu'on peut faire dans ce domaine-là. Nous allons voir que tout cela, ça encadre notre prospérité et que quand nous ne sommes pas sages, eh bien, il se passe plein de mauvaises choses dans nos vies et nous disons, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Eh bien, regarde qui tu es et regarde. J'ai remarqué une chose dans la vie chrétienne qui va vous aider. Un principe. Quand il se passe quelque chose de récurrent dans nos vies, c'est-à-dire, bon, tu subis un problème. Et si ce problème revient dans ta vie une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, ça veut dire que tu as un problème sérieux de mentalité. C'est comme ça que tu le repères. Parfois, vous savez, l'ennemi peut nous attaquer, c'est vrai, ça arrive. Mais Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu, rappelez-vous d'une chose. Il n'est pas Dieu, c'est une créature, il est sous tes pieds. Donc des fois, c'est vrai qu'il peut t'attaquer, mais c'est seulement parfois. Les chrétiens qui disent, pasteur, le diable est après moi 24 heures sur 24. Non, c'est pas le diable, c'est ta chair qui est derrière toi. Et il faut que tu la crucifies. Il faut que tu l'empêches de faire ce qu'elle veut faire. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, nous avons vu que la prospérité en général, donc n'englobe pas que les finances, bien sûr, c'est faire un bon voyage. Vous vous rappelez de ça? C'est faire un bon voyage, un excellent voyage dans cette vie. Et tu ne pourras jamais faire un excellent voyage dans cette vie si ta poche est percée et qu'il n'y a rien dedans. Ça veut dire que tu as besoin d'argent. C'est clair. Les chrétiens qui pensent que tout est spirituel, ils font de graves erreurs. Il y a aussi des ministres de Dieu qui pensent que parce qu'ils ont un don divin, ils vont réussir dans leur ministère. C'est complètement faux. Moi, personnellement, à l'Institut biblique, j'enseigne, j'ai tout un cours là-dessus où j'explique qu'il y a le côté surnaturel du ministère qui est très important. Parce que c'est clair que si vous n'avez pas d'onction, vous pouvez prêcher, il se passera rien, vous porterez aucun fruit. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que vous avez une onction que vous réussirez dans le ministère. Il y a toute la partie naturelle du ministère, toute la gestion naturelle du ministère qui nous demande de la sagesse et de l'intelligence divine. Parce que sinon, j'ai vu des personnes avoir de très beaux dons, faire des guérisons, des miracles, avoir des appels de Dieu extraordinaires et qui aujourd'hui ne sont plus rien. Parce qu'ils sont tellement dégoûtés, parce qu'ils pensaient que tout allait marcher tout seul, parce qu'ils recevaient quelque chose de la part du Seigneur. Non, il y a le côté surnaturel qui est indispensable, totalement indispensable du ministère, mais il y a le côté naturel aussi dans lequel nous devons devenir des experts. Amen, pasteur Fofi. Nous devons faire ces choses, nous devons connaître ces choses. Donc la prospérité va être une mentalité sur laquelle nous devons travailler. Nous avons vu que nous avons une relation avec l'argent. Que vous le vouliez ou non, nous avons une relation avec l'argent, c'est clair. Et cette relation peut être excellente si c'est comme Dieu, si nous avons cette mentalité sur l'argent, comme Dieu voit l'argent, comme Dieu voit les finances. À partir du moment où tu n'as pas cette mentalité-là, tu auras une relation avec l'argent qui est mauvaise. Et il y a beaucoup de gens, pour de l'argent, qui font beaucoup de problèmes ou qui ont des mentalités, ils perdent tout. À chaque fois qu'ils ont de l'argent dans leur poche, ils perdent tout. Vous savez, c'est comme des gens qui ont un panier, ils mettent leur argent là-dedans, mais manque de chance, ils se trimballent comme ça toute la journée, mais manque de chance, il y a des trous dans le panier. Ça veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Donc ils n'arrivent pas à prospérer, ils ne s'en sortent pas, vous voyez ? Et ça, ce sont des choses, des principes qui sont simples, mais dans lesquels il faut faire extrêmement attention, parce que souvent, nous nous retrouvons avec des problèmes au niveau des finances ou dans d'autres domaines, parce que nous les créons. Je vous rappelle que ce que je vous ai enseigné, c'est que 90% de nos problèmes sont générés par nous-mêmes. Je tiens à vous le dire. Le jour où vous avez réalisé ça dans votre vie spirituelle, vous avez compris beaucoup de choses. Si dans ta vie ça ne marche pas, regarde si c'est pas toi le générateur de problèmes. Nous sommes pas appelés à être des générateurs de problèmes. Souvent nous générons des problèmes pour nous-mêmes et nous générons des problèmes aux autres. Alors que nous devons être des résolveurs de problèmes. D'abord pour notre propre vie, au travers de la parole de Dieu, et aussi nous devons apprendre à résoudre les problèmes des autres en les aidant à partir du moment où ils veulent être aidés. Parce que je vais vous dire une chose, vous pouvez avoir de grosses difficultés financières, si vous n'êtes pas prêt à changer et à être aidé, vous êtes « hopeless », comme on dit en anglais, ça veut dire « on peut rien pour vous ». Moi personnellement, je ne perds pas mon temps avec des gens qui ne veulent pas changer, parce que j'ai perdu beaucoup de temps, et nous les pasteurs, vous savez, on a des gens qui sont des pompes, il y a des pompes à pasteurs, ils viennent vers le pasteur, et toujours, ils viennent avec leurs problèmes récurrents. Comme je vous le disais tout à l'heure, un problème qui revient, un problème récurrent, c'est une mentalité qui n'a pas été transformée par la parole de Dieu et tu reviens toujours dans ce problème, soit dans ce péché-là, ou soit dans ce problème qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Et la seule solution, c'est que tu changes. Amen. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent qu'on chasse des démons d'eux tout le temps et les malédictions générationnelles qui n'existent pas parce que nous sommes bénis. De toute la bénédiction spirituelle, il n'y a pas de malédiction sur nous. Maintenant, si tu attires des choses mauvaises dans ta vie, ça veut dire que tu ne vis pas dans les principes du royaume de Dieu. Et c'est là où il faut faire très attention, frères et sœurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été enseignées, qui ont été fausses et qui ont fait du mal au corps de Christ. Et je bénis le Seigneur parce que votre pasteur fait attention à ce genre de choses et que ce n'est pas un farfelu comme beaucoup de gens, malheureusement, qui commencent à prendre une doctrine qui est fausse et qui commencent à l'appliquer à tout le monde. Et les chrétiens sont complètement bousillés après. Et ça, c'est terrible et ça fait du mal. On est là pour construire, on n'est pas là pour détruire les vies. La Bible nous dit clairement, je vous rappelle, que nous devons faire une différence dans ce monde entre ceux qui sont, donc nous, les enfants de Dieu, avec ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ensuite, nous avons vu que nous sommes supposés porter des fruits. La Bible nous compare à des arbres. Vous vous rappelez de ça? Hein, la vie de Dieu, on est comme des arbres. La Bible est très claire là-dessus. Et nous devons porter du fruit. La vie de Dieu coule en toi. Si tu dis, le Seigneur m'a dit, le Seigneur ceci, le Seigneur cela, moi, ça ne m'impressionne pas. Ce genre de chrétien ne m'impressionne pas du tout. Même des serviteurs de Dieu qui me disent ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le fruit. Parce que Jésus a donné une petite parabole très simple. Un jour, le Seigneur m'a parlé tellement clairement là-dessus, c'était terrible. J'ai compris une chose très simple. C'est que d'abord, Jésus parlait toujours avec des choses très simples que tout le monde peut comprendre. Par contre, ce que Jésus a dit dans les évangiles, parce que j'ai étudié beaucoup, beaucoup les épîtres, et le Seigneur m'a ramené un peu vers les évangiles en me disant, il y a beaucoup de richesses ici dans les évangiles. Et en fait, dans les évangiles, nous trouvons les fondations du royaume, les lois qui régissent le royaume de Dieu. Dans les épîtres, nous trouvons ce que Jésus a réalisé pour nous et ça explique beaucoup mieux les lois fondamentales que Jésus a données dans les évangiles. Vous en trouverez beaucoup de lois simples. Par exemple, Jésus va dire une chose, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc si tu dis je suis un bon arbre, d'abord en général les gens qui disent moi je suis, moi je suis, moi je suis, en général c'est un mauvais signe. Hein, parce qu'ils sont tout le temps en train de se glorifier sous le couvert de la spiritualité. Non, sois discret mais porte des fruits. Apprends à porter des fruits. On te reconnaîtra à tes fruits. On ne te reconnaîtra pas parce que tu as un super langage ou un super costume ou une super bagnole ou quoi. On te reconnaîtra à tes fruits, mon frère, ma sœur. Donc fais attention. Les fruits que tu portes, ça va montrer qui tu es comme type d'arbre. Nous sommes des arbres. Nous devons porter des fruits. Alors, je vous rappelle que Dieu est le propriétaire de la terre. Vous avez bien compris ça. Par contre, le gestionnaire n'est pas Dieu. Les gens qui pensent que Dieu fait tout ce qu'il veut sur la terre, c'est faux. La Bible nous dit d'ailleurs, c'est Paul qui parlera dans 2 Corinthiens 4:4, qu'il parle que Satan est le Dieu de ce siècle. Ça veut dire qu'en fait, il a récupéré la gestion au travers du péché d'Adam et Ève. Je vous le rappelle. C'est un mauvais gestionnaire. C'est pour ça que sur cette terre, vous ne verrez que des galères. Vous ne verrez que des guerres. Vous verrez des gens qui vont se bagarrer. Vous verrez des gens qui font n'importe quoi avec les richesses de Dieu. Parce qu'il y a un mauvais gestionnaire. Vous pouvez avoir une société, par exemple, ça a été très connu. On le voit quand on étudie, par exemple, des sociétés prospères. Vous pouvez avoir une société qui est très prospère. Et d'un seul coup, le fondateur qui a amené la société dans les hauteurs, dans des super dimension, d'un seul coup va mourir. Et puis, quelqu'un va prendre la succession. Et quelques années plus tard, vous entendez parler, la société est en faillite. Quelle était la différence? Est-ce que c'était les fondations de la société? Non, c'était le gestionnaire, celui qui a repris le business. Et il l'a complètement ruiné. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais gestionnaire. Eh bien, c'est ce que nous voyons sur la terre. La terre n'est pas gérée par Dieu. Par contre, Dieu Dieu est le propriétaire de la terre. D'ailleurs, il reviendra, et nous reviendrons ici, quand il aura tout recréé sur sa surface, à la fin des temps, et nous régnerons avec lui, ici même, sur cette terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de richesses. Je parlais il y a quelques minutes avec le pasteur Fofi, et on parlait du Congo, de la RDC. Il me disait, il y a une région, il y a plein de pétrole partout, etc. Et je dis, au Congo, il y a tellement de richesses, par exemple, au Congo. Mais les Congolais sont en train tout le temps de se bagarrer. Pourquoi ? Pour les richesses de notre Père. Et ce sont des inconvertis très souvent, ou des gens qui se prétendent chrétiens, qui se bagarrent pour des choses comme ça. Mais regardez le monde, ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Regardez qu'est-ce qui appartient à qui. Et vous allez découvrir que nous sommes dans le plus gros hold-up, le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité. Et ce sont les païens qui profitent de quoi ? Qui profitent des richesses de notre Père. Et les chrétiens sont là en disant, ben oui, on laisse tout ça, on va prêcher l'évangile. Ah oui, mais on n'a pas d'argent. Ah oui, mais on est... Vous savez, quand vous êtes, par exemple, moi je vois ça souvent et je donne cet exemple. Si quelqu'un est là qui parle de Jésus à un patron, par exemple. Tu parles de Jésus à un grand patron. Et puis juste à la fin d'avoir parlé de Jésus, que Jésus était puissant et tout ça, etc., tu dis, au fait, patron, tu sais, moi je suis au chômage, t'as pas un boulot pour moi ? Vous voyez c'est le contraste que ça fait. Et ça fout la honte. Le chrétien est devenu parfois quasiment mendiant et se sent des fois dans une position d'infériorité parce qu'il n'a pas compris que c'est lui qui doit être influent normalement. L'influence est quelque chose qui est très importante. Et l'argent a un pouvoir, je vous le rappelle, un pouvoir d'influence. Et il faut que cet argent soit dans les mains des enfants de Dieu. Il faut arrêter de penser qu'il faut laisser les choses aux païens, que nous, notre seul but, eh bien, c'est d'aller prier. Oui, c'est bien de prier, je suis tout à fait d'accord. C'est bien d'évangéliser, mais d'abord, si tu veux évangéliser, il faudra de l'argent. Tu veux construire des églises, il faut de l'argent. Tu veux construire des écoles bibliques, il faut de l'argent. Tu veux être sur les médias, il faut de l'argent. Tout passe par de l'argent, parce que l'argent a une puissance. Quand vous regardez les médias aujourd'hui, eh bien, je ne sais plus, je crois qu'il y a 2500 ou 3000 chaînes de télévision dans le monde. Il n'y en a que quelques-unes, on peut compter celles qui sont chrétiennes sur les doigts de la main. C'est triste. Et les chrétiens disent, ben, gloire à Dieu, on a une télévision quelque part. Alléluia. Moi, je trouve pas ça très glorieux, excusez-moi de le dire. On devrait maîtriser les médias. Pourquoi ? Parce que nous avons le plus grand des messages. Le plus grand des messages, c'est pas de dire qu'à Fukushima, il y a eu une centrale nucléaire qui a pété. C'est pas ça le plus grand des messages. C'est pas ça. C'est pas de dire que le cours de la bourse vaut tant aujourd'hui. C'est pas ça le plus grand des messages. Le plus grand des messages, c'est qu'il y a Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans et il est venu sur cette terre et il est venu pour nous racheter. Ça, c'est le plus grand des messages. Et nous devons le transmettre. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on le transmet ? Principalement par les médias. Principalement par les médias. Et être sur les médias coûte des fortunes. Il faut bien que ce soit payé. Ah, le Seigneur nous donnera, le Seigneur. Mais le Seigneur passe par qui, frères et sœurs ? Vous pensez qu'il y a des païens qui vont vous dire, oh, pasteur Fofi, j'ai appris que tu voulais acheter une église à 3 millions. Allez, un petit chèque de 2 millions et demi, ça te plairait ? Bon, ça peut arriver, mais extrêmement rarement, je vous l'ai dit. Ça arrive une fois sur 1 million ou 100 millions. OK ? La plupart du temps, les églises qui ont eu de l'impact et qui ont, je dirais, une influence dans l'endroit où elles sont, eh bien, ce sont des églises qui ont compris les principes du royaume de Dieu. Et souvent, les chrétiens sont là en train de dire, « Ah non, mais c'est faire des finances, non, on va passer notre temps à faire des finances. » Excuse-moi, tu as 24 heures au jour, tu as un job. C'est bien que tu sois employé, mais ça serait mieux si c'était toi le patron. Ok ? Maintenant, c'est une question de mentalité. Qu'est-ce que tu vois devant toi ? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrêtent pas de penser que finalement, ben, ils sont dans un état de fait, ils sont dans des circonstances et ils ne veulent pas initier des choses. C'est vrai qu'il y a des risques à initier des choses. C'est vrai qu'il va falloir se battre contre des loups et des requins de la finance. Mais je suis désolé, les chrétiens doivent investir. Un jour, il y a un homme dans mon église, c'est le deuxième plus grand homme de la République du Burundi, c'est le premier vice-président. Et il s'est converti il y a quelques années et il a mis 3 ans avant de venir à l'église. Il ne s'est pas converti au travers de mon ministère, il s'est converti parce qu'il a vécu une expérience miraculeuse d'une guérison d'un cancer. Et franchement, il a un témoignage absolument fabuleux, cet homme-là. Il aime le Seigneur, il est en feu pour le Seigneur. Et puis, il était donc dans un parti politique. Et il m'a dit, il est venu à l'église parce que le Seigneur lui a spécifiquement de dire de faire partie de notre église. Il est sorti de chez les catholiques pour faire... Il était né de nouveau et il a attendu 3 ans avant de fréquenter une église locale. Mais le Seigneur lui a spécifiquement dit à l'époque de venir dans notre église. Il n'était pas le premier vice-président à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme est venu me voir un jour et il m'a dit, voilà pasteur, je me présente, vous m'avez vu à l'église, etc., etc. Il était parlementaire à l'époque, il avait été élu au Parlement, mais il n'était pas encore dans le gouvernement. Et à cette époque-là, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, pasteur, vous savez, dans mon parti, vraiment c'est difficile, surtout depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je me demande vraiment, j'ai vraiment envie d'arrêter la politique. Et je lui ai dit, il s'appelle Terence, je lui ai dit, Terence, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et il m'a dit, ah, le Seigneur m'a dit de rester dans la politique. J'ai dit, Terence, j'ai dit, si vous fichez tous le camp, parce que c'est dur, parce qu'il me disait que c'était dur, c'était des combats terribles, des bagarres terribles, il me disait, je sors des réunions, je suis épuisé. Mais oui, c'est normal, parce que les païens n'aiment pas ça. Et le diable n'aime pas ça, de voir des gens qui vont avoir de l'influence et qui n'appartiennent plus à son royaume. Et Dieu soit béni, il est resté dans le parti. Et quelque temps après, il s'est fait nommer premier vice-président de la République. Et il avait une amie qu'il avait amenée au Seigneur, qui, c'est un couple qui est dans notre église aussi, qui s'est fait nommer ministre aussi. Et c'était une dame qui n'avait pas été réélue en tant que parlementaire la deuxième fois, mais elle a été nommée ministre parce qu'ils avaient besoin d'un ministre de ce parti-là, au niveau du gouvernement. Et vous voyez, si nous laissons tout aux païens, ils boufferont tout. Ah ça, les païens boufferont tout. Parce que le diable est un bouffeur. Soyons clairs. Donc maintenant, tu vas faire un choix. Moi, je vais vous dire une chose. Si je n'étais pas pasteur, je ferais une chose. Je serais dans le business. Je ferais une chose. Je provoquerais les finances et je bosserais comme un fou pour créer des richesses pour financer le royaume de Dieu. C'est ce que je ferais. Parce que je trouve ça aberrant que des chrétiens soient là. On leur prêche l'évangile. Donc les gens, on leur prêche l'évangile. Ils sortent du royaume des ténèbres. Ils naissent de nouveau. Ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, on les met dans une église, ils sont là, ils ont un pasteur, ok, plus ou moins une bonne église, admettons que ce soit une bonne église, ils s'assoient et ils attendent en se disant « Gloire à Dieu, vivement le ciel !» Mon frère, t'as une destinée ici sur cette terre, ok? Et cette destinée, c'est quoi? C'est de tout faire pour que le royaume de Dieu avance. Tu fais de la louange, tu participes à cela. T'es là, tu fais de l'équipe d'accueil, le protocole, tu fais partie de ça. T'es aux caméras, tu fais partie de l'avancement du royaume de Dieu. T'es pasteur, tu fais partie de l'avancement du royaume de Dieu. Et tu fais des finances, tu fais partie de l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons besoin, frères et sœurs, et dans cette église, et je prierai pour ça spécifiquement, vous avez besoin de grands businessmen. Non pas forcément des gens qui viennent, mais vous, que vous le deveniez, que vous ayez une vision de quelque chose. Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui n'ont qu'une vision, c'est dire je vais prier, bon c'est bien, je tiens ma vie correctement, je ne vis pas dans le péché, je marche là, ok, ça c'est bien, mais ça c'est une étape seulement. Il y a l'étape où tu es reconstruit, où tu as besoin de te stabiliser dans le Seigneur, et tu as l'étape où tu dois dire Seigneur, qu'est-ce que tu as, quelle est ma destinée pour moi? Et certains d'entre vous, je sais que le Seigneur vous a parlé de faire du business. Parce que dans chaque église locale, Dieu place des gens qui doivent créer des richesses d'une façon immense. On a besoin de gens qui soient dans le business et qui sont du royaume de Dieu, frères et sœurs. Nous en avons besoin. Des gens qui disent, moi, je suis prêt à financer l'église de Dieu. Je suis prêt à être derrière mon pasteur d'une façon discrète, pas d'une façon manipulative. Parce que ça, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui sont là près du pasteur, ils viennent là avec leur gros beau costume, ils ont une grosse enveloppe qui dépasse jusqu'ici, vous savez, pour bien montrer qu'ils sont près du pasteur. Pasteur, il faut que je vous voie dans le bureau. Puis le pasteur sait bien qu'il va sortir l'enveloppe au bout d'un moment. Mais ça, c'est tenir en otage le pasteur. Et ça, il ne faut jamais accepter ça. Un pasteur ne doit jamais être tenu en otage par quelqu'un qui a de l'argent. Jamais. Jamais. Il doit faire extrêmement attention. C'est pour ça que nous devons comprendre notre rôle. C'est une question de mentalité. Nous parlons mentalité. Regardons ensemble, on va reprendre dans les Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Et ce que je veux, c'est vous aider à avoir une vision financière dans vos vies. Proverbes chapitre 16. À partir du verset 16. Je vous rappelle que Dieu ne veut pas que nous recherchions l'argent. C'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise mentalité qui a perverti des gens, qui a amené des gens à avoir une mauvaise relation avec l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu as tort. C'est pas ça qu'il faut chercher. Je vais te montrer ce que la Bible dit. Ne cherche pas l'argent. L'argent est un produit dérivé d'une mentalité du royaume. L'argent sera une conséquence si tu marches dans le royaume de Dieu selon la mentalité de Dieu. Chercher l'argent t'amènera à n'avoir que des ennuis. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'avidité. On en parlera de l'avidité. Tu vas avoir de la convoitise. Dieu ne nous demande pas de chercher l'argent. Dieu va nous montrer un autre principe dans Proverbe 16. C'est un principe qui est très important. C'est là où je veux commencer. Je vais vous montrer un certain nombre de principes parce que souvent, quand les prédicateurs prêchent sur les finances, il n'y a qu'une chose qu'ils disent. Donnez et il vous sera donné. C'est juste une partie du message, ça. Juste une partie du message. Si des gens prospèrent et d'un seul coup ont beaucoup d'argent, s'ils n'ont pas la mentalité, le caractère, vous les perdrez. Vous les perdrez. Parce qu'ils iront se perdre dans le monde. Ils diront, j'ai plus le temps d'aller à l'église, j'ai plus le temps de... Oui, c'est vrai, je devais prier, mais je n'ai plus le temps. J'ai tellement de choses à faire. Et leurs priorités ne seront plus en ordre. Ils ne seront plus en ordre. Leurs priorités seront dans le désordre. Et quand on marche dans le désordre, on ne peut pas prospérer selon Dieu. On ne restera pas longtemps en feu pour le Seigneur. C'est pour ça que dans notre vie, nous devons mettre nos priorités en ordre. Et dans les finances particulièrement. Proverbe 16 nous dit la chose suivante. Il nous dit... Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or et combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Est préférable à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les gens qui ont les lunettes de la religion, les descendants des pharisiens vous diront, bien oui, le chrétien ne doit pas être riche. Non, c'est pas ce que la Bible a dit du tout. Rappelez-vous que ces proverbes ont été écrits par qui? Le roi Salomon. Le roi Salomon a été l'homme le plus riche de la terre. Il a possédé le plus d'or, personnellement je parle, que n'importe quel plus riche des plus riches que nous avons sur le magazine Forbes qui classifie les gens les plus riches de la terre. Salomon était l'homme qui a vécu, qui a été le plus riche sur cette terre. Il avait tellement de tonnes d'or, il ne savait plus quoi en faire. Et il a fait de Jérusalem une ville où l'argent et l'or étaient tellement fréquents que ça valait, entre guillemets, pas grand-chose. En tout cas, pour eux, c'était tellement facile d'avoir de l'or et de l'argent. Et Salomon, ici, inspiré par le Saint-Esprit, nous explique une chose très importante. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas la prospérité. Vous savez, les gens qui cherchent la bénédiction, ce sont des gens qui font fausse route. Moi, je ne cherche jamais la bénédiction. Je cherche celui qui est la source de toute chose. Et la conséquence, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Ne cherchez jamais la bénédiction. C'est comme quelqu'un qui va chercher à parler en langue. Pasteur, j'arrive pas à parler en langue. Mais c'est normal, tu cherches le parler. On ne demande pas de chercher à parler en langue. On te demande de te laisser remplir du Saint-Esprit. Et le signe qui viendra obligatoirement, c'est la prière en langue. Ne cherche pas la guérison. Cherche celui qui est la source de la guérison. Tout simplement, ne cherche pas l'argent, cherche la sagesse et l'intelligence de celui qui a créé toute chose. Vous savez, je suis vraiment fâché par rapport à beaucoup de mentalités des chrétiens. Parfois je me dis, franchement Seigneur, ton peuple manque d'intelligence. Souvent. Pourquoi est-ce que Bill Gates, c'était pas un chrétien? Vous êtes posé la question? Pourquoi Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, n'était pas chrétien né de nouveau? Il semblerait que les chrétiens n'ont pas compris que Dieu veut infuser des idées en eux. Souvent, les gens prient en disant, « Seigneur, je voudrais une promotion. Seigneur, je voudrais un bon boulot. Seigneur, je voudrais telle somme d'argent. » Bon, ok, d'accord. Ça, c'est les prières basiques. Mais il y a beaucoup plus. Il y a une autre mentalité qu'il va falloir commencer, dans laquelle... Demande plutôt, dis, « Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une idée de business. Je voudrais que tu me transmettes quelque chose d'intelligent. » Vous savez que Dieu est supra-intelligent. Il nous a créé des êtres intelligents. Mais l'intelligence, la Bible nous dit qu'il a créé les cieux et la terre par quoi? Par son intelligence. Mais lisez la Bible. La Bible nous parle de l'intelligence de Dieu, et ce n'est pas moindre. Vous savez, les petits hommes, ça fait presque 6000 ans qu'ils sont en train de chercher, ni plus ni moins. À chaque fois que quelqu'un a comment dire, un prix quelconque en science ou autre, je ne sais plus comment on appelait ça, le prix Nobel, merci. Les prix Nobel de science, qu'est-ce qu'il a fait? Le type a passé 30 ou 40 ans de sa vie à découvrir un milliardième de millimètre de la connaissance de Dieu, finalement. C'est tout ce qu'il a fait. Et on va lui donner un Nobel, on va le mettre devant toutes les télés. J'ai découvert ça. Ah oui, t'as découvert ça? Mais il y en a un autre qui l'a créé, il y a bien longtemps d'ailleurs. Parce que Dieu est supra-intelligent. Et malheureusement, nous entendons très peu de chrétiens qui sont suffisamment intelligents, entre guillemets, qui reçoivent des idées divines, créatrices. J'essaye d'éveiller quelque chose chez vous en ce moment. Parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Parce que le peuple de Dieu prie très souvent pour certaines choses. D'ailleurs, beaucoup de prières sont inutiles. On pourrait faire des sujets sur la prière. Et des prières inutiles avec un grand Z, que nous voyons beaucoup. Et plutôt que de se focaliser sur les choses importantes. Nous devons prier pour les âmes perdues, c'est très important. Nous devons prier aussi pour la sagesse, frères et sœurs. Et nous devons prier aussi pour l'intelligence divine. Que Dieu nous donne des idées exceptionnelles. Nous devrions être le peuple le plus brillant de la terre. Nous devrions être le plus excellent de la terre. Et souvent, malheureusement, nous voyons les chrétiens qui sont dans la médiocrité. Quand ils ont des idées, franchement, souvent on se dit, bah ouais, bof, c'est pas génial ton idée, effectivement. Mais c'est triste. Alors que nous devrions chercher l'intelligence de Dieu. Dieu veut nous transmettre son intelligence. Un jour, il y a eu un témoignage comme ça d'une personne. C'était aux États-Unis. C'était un couple. Et la sœur en Christ, pendant la nuit, a rêvé. Et elle a rêvé, elle a vu comme des chiffres, des lettres et des chiffres, etc., etc., etc. Elle s'est levée le matin et elle a écrit ça sur un bout de papier. Et elle a demandé à son mari, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le mari lui a dit, bah, ça a l'air d'être une formule chimique. Et ils ont découvert que c'était ni plus ni moins la formule d'une molécule, d'un médicament qui pouvait guérir une maladie incurable. Ils en ont fait un médicament, et si mes souvenirs sont bons, ils ont fait une relative fortune avec cela. Un jour, il y a un prédicateur qui a acheté un endroit, une maison, je crois que c'est en Louisiane, si mes souvenirs sont bons. Et il a acheté une maison à un certain prix. Et quelque temps après, il y a une société de gaz qui est venue et qui voulait lui racheter sa maison, je ne sais plus, 2, 3 ou 10 fois plus cher, je ne sais plus exactement le coefficient multiplicateur, parce qu'il y avait du gaz sous sa maison. C'est-à-dire qu'il y avait une nappe de gaz dans laquelle il voulait creuser, il voulait acheter tout un endroit. Dieu veut nous donner un certain nombre de choses. Il veut nous donner des idées, veut nous donner des endroits, veut nous donner des choses que l'homme ne connaît pas. Mais malheureusement, souvent, nous ne prions même pas pour ces choses-là. Est-ce que tu pries pour avoir des idées qui sont plus géniales que les autres? Tu devrais. Dans le domaine de ton travail, dans le domaine où tu veux faire du business, dans tous les domaines, nous devrions penser à des systèmes plus intelligents. Parfois, vous savez, moi j'aime bien scruter. Je suis un peu isolé au Burundi au niveau, je dirais, technologie, etc. Mais avec ce que j'ai, j'aime bien scruter ce que les autres font et découvrent. Par exemple, je me suis intéressé à la bourse il y a quelque temps. Et franchement, dans la bourse, ils ont inventé des systèmes, mais c'est païen. Des fois, vous vous dites, comment est-ce que des gens arrivent à inventer des systèmes qui sont disponibles pratiquement pour tous les gens pour faire de l'argent? Eux, ils ont fait ça, parce qu'ils voulaient faire de l'argent. Mais ils ont travaillé dur, des logiciels, des machins, des trucs. Et ils vous expliquent à droite et à gauche. Et vous avez des milliers et des milliers d'informations. Vous dites, mais si les chrétiens faisaient ça, il pourrait vraiment être d'avant-garde. Le monde nous dirige. Nous devrions diriger le monde. Et ça, on a un problème sérieux. Le corps de Christ ne comprend pas ça. Et quand il y en a un qui commence à briller, on dit, ah, oh, t'es orgueilleux, toi. Ah, ah, nous devrions tous briller dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle. Nous devrions tous briller, frères et sœurs. Si tu n'es pas appelé à être prédicateur, dis-toi, crée des finances pour le royaume de Dieu. Fais quelque chose. Applique ta main à quelque chose. Que Dieu te donne des idées et il va t'en donner. Dieu est un Dieu qui donne des idées. Dieu nous demande d'avoir la sagesse, d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Parce que si tu as de la sagesse et de l'intelligence, rappelez-vous, quand vous lisez l'histoire de Salomon, un jour j'ai relu l'histoire de Salomon comme ça, mais c'est incroyable de voir comment Dieu, finalement, a béni cet homme financièrement. Salomon a demandé quoi au départ? Il a dit, moi, je suis tout jeune. J'ai un peuple à gouverner et c'est le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de la sagesse, nous le savons tous. Et Dieu lui a donné quoi en plus? La gloire et la richesse. Mais la Bible ne dit pas que Salomon donc, n'a pas demandé. La Bible est claire, Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé la sagesse. Et l'intelligence aussi pour diriger le peuple de Dieu. Et Dieu, lui a donné, au travers de ça, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé des richesses. Réfléchissez bien à ça. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur la prospérité financière en disant « je veux gagner ça, je veux ceci, je veux cela ». Mais je vais te dire une chose, si tu n'as pas d'intelligence et de sagesse, ta prospérité, tu ne la verras pas. Ou peut-être que tu verras certaines choses financières, mais tu vas te casser la figure régulièrement. Ce que tu vas toucher ne va pas prospérer. Et quand je parle de prospérer, quand on touche quelque chose, c'est d'abord au travers d'une mentalité et après le reste vient. Pour Dieu est capable d'amener des sources financières quelles qu'elles soient. Maintenant, c'est à nous de nous positionner d'une certaine façon pour que ces sources soient attirées vers nous. Vous voyez, dans l'église locale, c'est la même chose. Que ce soit le pasteur, que ce soit les chrétiens, ils doivent apprendre à créer des sources financières. Et ce n'est pas compliqué à faire. Moi, je l'ai fait au Burundi, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis de rien. Le jour où Dieu nous a demandé de créer l'église El Shaddai, il y a 12 ans et demi, je peux vous dire une chose. Je me souviendrai toujours de tous les jours de ma vie de ça. J'étais là et le Seigneur m'a parlé parce que personnellement, je ne pensais jamais être pasteur. Moi, je disais, je suis un enseignant, gloire à Dieu, j'enseigne les gens, je fais mon école biblique. J'avais commencé l'école biblique à l'époque. On avait peu d'étudiants, vraiment très peu d'étudiants. Et je me disais, bon, c'est bien, au moins les étudiants viennent, je les enseigne. Après, ils repartent et quand ils ont des problèmes, ils vont voir qui? Leur pasteur. Ouf, tant mieux pour moi. Vous voyez, c'était mon raisonnement. Je disais, moi, je ne veux pas m'occuper des gens, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien les enseigner, mais après, je veux qu'ils partent. Et ça, c'était ma mentalité à l'époque, une mauvaise mentalité, bien sûr. Et Dieu m'a parlé quelques années après, il m'a visité puissamment, et Dieu m'a parlé clairement de commencer l'Église. Et quand on a commencé l'Église, c'était dans les années fin 98, vraiment le mois de décembre, à la fin du mois de décembre. Et réellement, on avait juste fait quelques séminaires, et après, on a démarré l'Église en 99. Et Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit, ce serait une Église autofinancée. J'ai dit, Seigneur, merci pour le cadeau. On est en pleine guerre civile. Tous les gens foutent le camp du pays. Les gens sont au chômage. Les entreprises ferment. Et c'était le chaos total. En début 99, au Burundi, c'était le chaos total. Quand je vous dis le chaos total, les gens se tuaient, les gens faisaient n'importe quoi, l'économie a été foutue par terre, on a du mal à s'en remettre, c'était un chaos total. Et Dieu m'a dit cela. J'ai dit, Seigneur, très bien, vraiment j'ai pris Dieu au mot. Vraiment parce que le Seigneur m'a clairement parlé. Une église autofinancée. Moi je pensais que j'allais démarrer l'église, puis que quelqu'un allait faire un gros don, vous savez, puis on allait pouvoir acheter les quelques baffles dont on avait besoin pour démarrer, et puis se débrouiller, et payer les loyers d'avance. Non, j'avais à peu près 450 dollars de ma poche, on avait 350 dollars de soutien avec 6 enfants là-bas, et on devait se débrouiller avec ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit au Seigneur, voilà, moi j'ai ça, j'ai juste pour payer les quelques mois d'avance, les quelques loyers d'avance. J'ai dit au Seigneur, bon, je mets ça, mais j'ai dit au Seigneur, si on manque d'argent un jour dans cette église, je mettrai la clé sous la porte. C'était le deal que j'avais avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment, un jour, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas avoir la honte de venir devant un propriétaire et lui dire, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, monsieur. Ça, j'ai dit, on était dans un hôtel. On a eu une grâce exceptionnelle d'avoir une salle de cinéma qui était inoccupée pendant 3 ans, à cause de la guerre, à cause de tout ce qui avait commencé à démarrer. Et c'était dans un hôtel, un des meilleurs hôtels à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais vraiment, Dieu nous a fait grâce. On a même pu négocier le loyer. Et c'était quand même un loyer assez bas, je sais pas, 200 dollars ou du genre à l'époque. Mais 200 dollars à l'époque, ça représentait, quand vous démarrez une église en pleine guerre civile avec des gens qui n'ont pas un rond en poche et qui pensent que vous allez leur donner de l'argent, c'est pas toujours facile. Mais je peux vous dire, j'ai vu la fidélité de Dieu. Et on a commencé à prêcher et à enseigner. Et vous savez, vous connaissez la couleur de ma peau, hein? Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Je suis arrivé là-bas. Et les gens pensaient, Olivier a démarré une église parce qu'il a reçu de l'argent. Les gens pensaient ça, directement. Et je leur disais, non, je n'ai pas d'argent, par contre j'ai un message. J'ai pas d'argent, mais j'ai un message. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et je peux vous dire une chose, on était là, on prêchait, et des fois je prêchais la prospérité, et j'entendais les pensées des gens dire, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es un missionnaire, les missionnaires ont toujours ramené de l'argent dans notre pays. Toi, pourquoi t'en as pas ramené? Vous savez, des fois, quand vous prêchez à des gens, vous entendez quasiment leurs pensées, vous savez? Est-ce que je veux dire? Et tu oses nous prêcher la prospérité et de parler de la dîme, alors que tu vois bien qu'on est en galère, on est en pleine guerre civile, on est deux ethnies qui sont en train de s'entretuer, etc., etc. Oui, nous l'avons prêché, nous avons continué à prêcher. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, il y en a plus d'un qui vient nous visiter en disant, quel est le secret? Et je leur dis, j'ai pas de petit truc. Parce que beaucoup de pasteurs, je les vois, ils ont commencé même avant nous, d'autres ont commencé un peu après, et qui sont dans des galères épouvantables. Des chrétiens qui sont dans des galères épouvantables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de la parole de Dieu. Et quand vous avez, vous savez, vous pouvez commencer avec rien. Je vous l'ai dit hier, c'est pas là, l'important, c'est pas là où vous commencez, c'est là où vous voulez aller. C'est tout. Si tu n'as pas de vision, sans vision, la Bible nous dit, le peuple meurt. Le peuple est sans frein, littéralement. Le peuple périt. Le peuple tourne en rond. Quand tu n'as pas de vision, tu n'es pas motivé. Si le matin, à ton petit déjeuner, il n'y a rien dans ta tête, il n'y a rien dans ton cœur, même s'il y a Jésus, entre guillemets, dans le sens où si tu es là simplement pour vivre au jour le jour, mais tu seras toujours malheureux. L'homme a besoin de réaliser les choses. L'homme a besoin d'avoir une vision créative. Il faut que tu vois quelque chose devant toi. Moi, je vois beaucoup de choses devant moi. On est en train de construire un bâtiment de 2500 places, enfin construire, de terminer un bâtiment de 2500 places, mais j'ai dit, quand on a fait les trois jours de jeûne et prière dans l'église, je leur ai dit, je suis désolé frères et sœurs, mais moi je suis plus là déjà, je suis déjà dans un bâtiment de 10 000 places. Je suis comme ça. Et t'es obligé, il faut que tu sois créatif. Il faut que tu vois des choses toujours devant toi. Sinon les années vont passer, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu vas te retourner, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah oui, mais moi, j'étais pas comme le pasteur Fofi. Lui, quand il prêchait, il voyait beaucoup de gens se convertir. Oui, d'accord, mais il a peut-être mangé de la soupe à l'époque et il a peut-être mangé des haricots qui étaient un peu durs parce qu'il n'avait pas d'argent, j'en sais rien. Mais certainement qu'il a eu ses années dures. C'est clair. Mais il ne s'est pas dit, bon, ben, puisque je mange mes haricots aujourd'hui et que j'ai du mal et que j'ai des dents cassées, eh bien, je ne sais pas ce que je vais jamais réussir ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Nous donnons trop d'excuses, frères et sœurs, pour l'échec. Ne te donne jamais une excuse pour l'échec. Tu dois avoir une vision financière dans ta vie. Mais d'abord, ça va commencer avec ce qu'il y a là-dedans. Mentalité. Après, je vais te montrer comment avoir la foi et comment appliquer les principes. Ça va être les cours qu'on va voir par la suite. Mais tu dois comprendre ça. Donc la sagesse et l'intelligence, ça fait partie des choses absolument indispensables que tu dois créer en toi. C'est-à-dire, la sagesse et l'intelligence, c'est des choses que tu vas recevoir au travers de la parole de Dieu, en méditant la parole. Et je vous invite financièrement, une chose qui vous aidera beaucoup, c'est de méditer les proverbes. Dans les proverbes, on vous explique le comportement qu'il faut avoir. On vous explique la façon. On va d'ailleurs étudier plusieurs fois les proverbes au cours de ces leçons. Parce que vous allez découvrir de plus en plus. Vous allez vraiment découvrir dans les proverbes. Je vous invite vraiment, lisez les proverbes les uns après les autres, doucement. Les proverbes, ça ne se lit pas, vous savez, comme Jésus qui va guérir le serviteur du centenier. Non, c'est pas une histoire qu'on lit. Sur chaque chose, tu médites. Tu prends différentes versions de la Bible et tu compares les versions. Ça va t'aider un peu à mieux comprendre le sens du proverbe. Il y a plein de choses intéressantes que tu vas découvrir dans les proverbes. Les proverbes nous donnent une sagesse immense. Nous avons besoin pour diriger nos vies. Rappelez-vous, nous sommes gestionnaires de nos vies. Vous vous rappelez la leçon hier. Nous ne sommes plus propriétaires de nos vies. Tu es gestionnaire de ta vie. Et si tu es bon gestionnaire, tu vas pouvoir faire prospérer ta vie à tous égards. Si tu es mauvais gestionnaire, ça va être une catastrophe. Tu vas te retrouver avec plein de problèmes relationnels, avec Dieu aussi, avec les finances, avec ton corps, le management de ton corps, etc. Tu es gestionnaire, tu es manager de ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as prié avec le pasteur Fofi, c'est sûr que tu as donné ta vie à Jésus. Ça, c'est sûr. Donc, tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Donc, tu n'es plus propriétaire de ta vie. Par contre, Dieu t'en a confié la gestion. Tout le monde dit gestion. Je suis le gestionnaire de ma propre vie. Répétez cela. Je suis responsable de ma propre vie. Je suis responsable des résultats de ma propre vie. Réfléchis bien à ça, ça t'aidera beaucoup. Ça t'aidera beaucoup. Tu es gestionnaire. Donc, ce que tu vas développer dans ta vie, tu en es entièrement responsable. Ne dis pas, oui, mais moi, je n'avais pas un père qui m'a légué un héritage d'1 million de dollars. C'est assez rare d'avoir un père qui vous lègue $1 million quand même. Hein? Surtout si vous êtes 5 ou 6 enfants à la maison. Parce que le père doit avoir une grosse fortune. Ça arrive parfois. Et parfois même, on a un héritage et il est gaspillé au bout de très peu de temps. Parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est une mentalité là encore. Ne dis pas, je ne peux pas faire ça. Ou, ah, si j'avais. Ou si j'avais eu. Ne dis jamais cela. Parce que ça, c'est avoir des regrets. Il y a beaucoup de gens qui ont des regrets dans leur vie. Ils sont là, ils disent « Ah, si j'avais été comme tel frère ou telle sœur. » Vous savez, les chrétiens se comparent beaucoup. Tu sors du culte, tu vois un qui a une super bagnole. Il a eu où sa bagnole, lui? Tu sais, ça, c'est des mentalités de petits. Dis pas ça. Dis simplement « Gloire à Dieu. Il a été béni. » Mais tu sais, un jour, moi aussi, je pourrais refléter la gloire de Dieu dans le domaine des finances. Ça doit être ta pensée. Vous voyez, c'est une question de mentalité. On est souvent bête dans nos mentalités. L'esprit de comparaison, on pourrait en parler. Dans les finances, c'est une catastrophe. Mentalité. Les gens se comparent. Non, te compare pas. Ou alors, compare-toi pour être inspiré. Moi, c'est ce que je fais. Je suis dans le ministère, donc je regarde les gros ministères. Quand je vois des gens, ils ont des gros trucs, je me dis, waouh, gloire à Dieu, Kenneth Copeland qui doit avoir 5 avions, donc 3 jets. Waouh! Et je sais combien ça coûte un jet. 1,5 million minimum, 3 millions, 5 millions de dollars. Il y a des gens qui les critiquent. Mais c'est des gens qui ont des dimensions spirituelles. Et ça inspire. Tu peux te dire, tiens, peut-être qu'un jour je pourrai avoir mon avion. Ça t'inspire. Ça t'inspire, non pas pour montrer que tu as un avion, mais simplement parce que tu en auras besoin pour le ministère. Au moment où tu en auras besoin. Quand je vois des grandes salles avec des auditoriums qui sont super bien faits, je me dis, waouh, c'est ça que je veux avoir. C'est ça que je veux avoir au milieu du petit Burundi, Boubou Jumbura Burundi, du milieu de nowhere, au nord du lac Tanganyika. Voilà. Et quand les gens viennent, maintenant j'ai des Canadiens qui descendent là-bas, ils disent. Quand ils commencent à regarder les bâtiments, ils sont. Et ils disent, waouh, parce qu'on a acheté vraiment un truc qui est beau. Quand ça va être fini, ça va être super. Parce que je ne veux pas vivre selon le standard du pays. Je veux vivre selon le standard du Seigneur. Mais là, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Là encore, c'était des étapes, après étape, après étape, après étape. Vous savez, c'est comme un escalier. Dans les vérités de Dieu, c'est comme un escalier. Il faut faire attention à ne pas louper la marche. Je pense qu'on a tous un jour, vous savez, on voulait monter un escalier, surtout quand on était jeune. Vlouf ! Et on s'est retrouvé par terre. Ça nous est tous arrivé, ça. Dans les vérités de Dieu, c'est exactement ça. Je vois souvent des gens faire ça. Ils sont là, d'un seul coup, vous avez quelqu'un, il est là, vous n'entendez pas parler de lui, puis d'un seul coup, waouh, tout le monde commence à parler de lui. Par exemple, souvent les prédicateurs, je prends souvent l'exemple du ministère, parce qu'on voit tellement de choses dans le ministère. Et puis d'un seul coup, c'est l'étoile qui brille, et tout le monde dit, oh, t'as entendu, le pasteur, l'évangéliste, et les gens commencent à parler, ou le frère a-t-elle, waouh, il avait rien, et d'un seul coup, il est dans le business, etc. D'accord, ok, mais attention, est-ce que son caractère a été travaillé à la mesure de la dimension dans laquelle il est? Si c'est ça, il n'y aura pas de souci. Il va être dans les hauteurs, il va rester dans les hauteurs. Et il va refléter la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, être dans les hauteurs, ce n'est pas être orgueilleux. Parce que Dieu est dans les hauteurs et Dieu n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Il est dans l'infinité, Dieu. Et Dieu n'est pas orgueilleux. Parce qu'il a le caractère qui va avec. Jésus a dit souvent, soyez par exemple, parfait, comme votre Père céleste est parfait. Parce que Dieu voit grand. Vous savez, Dieu n'est pas dans les petits trucs. Parce que ça aussi, ça m'énerve. Je prêche mes frustrations ce soir, d'accord? Vous me pardonnerez. Parce que ça m'énerve de voir des chrétiens qui sont là. Pendant 10 ans, ils vous racontent des petits trucs que Dieu a fait, petits détails, tu sais. La couleur du bus, ils avaient prié pour la couleur du bus, que le bus soit jaune, et juste le bus jaune est venu les prendre pour aller à l'église. Alléluia! Ils ont des témoignages microscopiques, et même le microscope électronique a du mal à discerner le témoignage. Arrêtons. Tel frère, il m'a donné $50. Oh, gloire à Dieu, pasteur. Alléluia. Et le gars, il a 10 ans de conversion, il est toujours au chômage depuis 9 ans, 364 jours, et 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Non, arrêtons. Dieu est un Dieu qui est grand, Dieu est un Dieu qui pense grand, Dieu est un Dieu qui parle grand, Dieu est un Dieu qui réalise grand. Donc dans ta tête, ça doit s'élargir comme ça. C'est très important. Vous savez, Dieu nous parle de quelque chose que les gens n'ont pas bien compris. Tiens, on va regarder dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10. Ah là 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 là. Vous savez, franchement, on est à la traîne, on est à la traîne, on est à la traîne. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Un verset qui est utilisé pour les grands chasseurs, les combattants spirituels. Vous savez qu'ils chassent tout. Avant d'entrer dans une maison, ils soulèvent les chaises pour savoir s'il n'y a pas un démon. Vous les connaissez, ces gens-là. Hein, vous avez été des victimes, certains d'entre vous. Mais vous avez été restaurés, gloire à Dieu. Parce que ces trucs-là, c'est vraiment de la superstition. Et c'est dans certains cercles, c'est même à la limite de la sorcellerie. Il faut dire ce qu'il y a. Franchement, les gens font n'importe quoi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. » Regardez bien ce mot « raisonnement » ici, on va revenir dessus. « Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, la Bible nous parle que nous avons à lutter. Okay? Mais la Bible ne nous parle pas d'esprit satanique ici. Ça n'a aucun rapport avec les esprits sataniques. C'est les mentalités. Parce que le monde a forgé ta mentalité, si elle n'a pas été changée par Dieu. Vous savez, on est éduqué dans le monde, c'est ça qui est triste. On envoie nos enfants dans le monde, étudier. On ouvre les informations du monde. Et on a d'autres types d'informations. Nous avons les informations de Dieu ici. Nous avons les informations de Dieu dans sa parole et les informations internes qu'il met dans notre esprit. Mais malheureusement, souvent, les chrétiens sont forgés dans leur mentalité avec les mentalités du monde et c'est ce qui fait opposition au royaume de Dieu et à la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. C'est terrible ça, c'est terrible. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Nous avons parfois des raisonnements, nous ne les réalisons même pas. Tu es là, tu agis, tu as des comportements, tu fais des choses et il y a quelqu'un un jour qui te dit « Mais pourquoi tu fais ça comme ça ?» Tu dis « Bah, je ne sais pas, on m'a toujours appris de faire ça comme ça. » Tu ne te poses même pas la question si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Parce que souvent, vous savez, quand on parle, par exemple, de péché, le péché, si on demande à la plupart des gens de dire « qu'est-ce que le péché ?» Bon, alors le péché, bah, c'est mentir, c'est voler, c'est d'aller coucher à droite à gauche, l'adultère, les machins. Bon, vous savez, bon, ok. Bon, ça c'est vrai. Ça, c'est une partie de notre sanctification. Mais une fois que tu as nettoyé ta vie, il y a autre chose. Il va falloir que tu construises. Parce que les gens vont leur dire, voilà, vous arrêtez de faire ceci. Par exemple, si tu avais l'habitude d'aller vendre de la drogue, bon, tu vends de la drogue, tu vis de la drogue. Ok, maintenant tu te repens, tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vas plus vivre de la drogue. Donc tu vas arrêter de faire ça. Mais il va falloir que tu fasses autre chose pour générer des sous. Parce que tu ne vas pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu as besoin de vivre en ayant des revenus. Donc il va falloir que tu crées une autre sphère. Selon Dieu, honnêtement, pour créer des finances dans ta vie. Il va falloir que tu crées quelque chose qui va te permettre de pouvoir vivre et après, il va falloir que tu aies une vision financière quelque part. Vous voyez, les mentalités nous ont bloqués. Je vais vous dire une chose, vous vivez à la dimension de votre mentalité. Réfléchissez bien à ça. Parce que ta mentalité va amener ta confession. On parlera de la confession avec la foi. Et ta confession, c'est ce que tu prophétises pour demain. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as parlé hier. Ok ? Ce que tu vivras demain, c'est ce que tu parles aujourd'hui. Si tu comprends ça, oh pasteur, faut prêcher là-dessus. Fais un gros message un jour et tu cries bien fort, comme tu sais le faire. Réfléchissez à ça. La Bible nous dit que tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire que tu ne vivras pas au-dessus de tes mentalités. Si tu as une mentalité tordue sur quelque chose, et tordue, ça ne veut pas dire forcément, tu vas dire, mais pasteur, je comprends pas, moi, je n'arrive pas à prospérer, pourtant, pasteur, vraiment, j'essaye de faire des efforts, j'essaye de donner ma dîme, j'essaye de ceci, j'essaye de cela, d'accord, mais quelle est ta vision pour prospérer? Comment est-ce que tu te vois financièrement? Où est-ce que tu te vois financièrement? Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. En fait, je vais vous expliquer une chose. Ici, j'ai insisté sur le mot raisonnement, qui veut dire aussi imagination. Nous renversons les raisonnements. C'est le mot imagination. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a... Par exemple, la pensée. Quand on parle de la pensée, et que certains, peut-être, vous avez été éduqués dans certains cercles bizarres, vous savez, de pensée positive, New Age et ces histoires-là, le Nouvel Âge, là, c'est des trucs bizarres, ou même des trucs de sorcellerie ou des trucs comme ça. Mais votre pensée, qui vous a donné la capacité de penser? C'est Dieu. Vous êtes d'accord? C'est vrai, on va dire, oui, la pensée, ah, les mauvaises pensées. Ah, les mauvaises pensées. C'est terrible, pasteur, j'ai des mauvaises pensées. D'accord, mais tu peux aussi avoir d'excellentes pensées. Si ta pensée est une poubelle, il va falloir que tu la changes. Et tu la changeras en transformant ta mentalité, tes raisonnements. Et l'imagination. Souvent l'imagination. Par exemple, vous avez un gars qui est allongé sur son lit, et d'un seul coup, son imagination, c'est qu'il y a une femme allongée sur lui, et il pense à se masturber. Parce que son imagination est tordue, elle est pervertie. Ok ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ton imagination est un mauvais outil. Mais tu peux faire dans ton imagination un excellent outil. Par exemple, regardez, je vais vous expliquer des petites choses très simples. J'essaie de vous expliquer des choses très très simples. Mais ce que je veux, c'est que vous saisissiez ces choses. C'est pour ça que je vous encouragerais vraiment à réécouter ces enseignements pour que petit à petit, vous réfléchissiez sur ces vérités. Parce que je suis obligé de vous en donner beaucoup en peu de temps. Par exemple, quand vous regardez un immeuble, n'importe quel immeuble, cet immeuble, vous supposez, si vous aimez les beaux immeubles, par exemple, vous dites, ah, cet immeuble vraiment à Montréal, c'est un bel immeuble. Mais cet immeuble, il n'a pas poussé tout seul. Vous êtes d'accord? Ça a commencé par quoi, cet immeuble? Par un type qui s'est assis et qui l'a imaginé. Ah, tu n'y avais pas pensé. Eh bien, tu as intérêt à y penser. Parce que la vie, si tu veux réaliser des choses pour le Seigneur, il va falloir que tu te connectes à la pensée de Dieu et à l'imagination de Dieu. Parce que Dieu te voit toujours. Tiens, je vais vous dire une chose importante qui va vous aider. Vous savez, souvent, bon, il y a des gens qui reçoivent des paroles du Seigneur, des prophéties, des vraies. On parle de choses vraies ici, on ne parle pas des gens qui font du pili-pili. On parle de gens réels. Bon, et d'un seul coup, le Seigneur te parle à toi ou te parle par une prophétie et te dit, voilà ce que tu vas être. Voilà ce que tu vas être. Je t'appelle à ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça? Parce que Dieu nous voit toujours prophétiquement. Dieu nous imagine toujours dans la condition terminée. Oula, essaye de saisir quelque chose ce soir. Dieu, dans sa pensée, t'imagine toujours dans la condition finie, accomplie. Pourquoi? Parce qu'il veut inspirer en toi une vision. Si tu n'as pas de vision dans ta vie en général, tu n'iras nulle part. Tu vas te retrouver à tourner en rond. On connaît beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, qui sont complètement inutiles, qui demandent la prière toutes les 5 minutes. Parce que, pasteur, ça ne va pas à la maison. Parce que, pasteur, je suis encore tombé malade. Parce que, pasteur, j'ai encore perdu mon job. Bah, pose-toi une question. Quelle est ta vision? Vous savez, il y a des gens qui se complaisent dans leurs petites histoires. Ils aiment se plaindre. Et comme je le dis souvent, et je fais souvent rigoler les gens avec ça, il y a un bureau qui n'existe pas dans le ciel, c'est le bureau des plaintes. Et aussi autre chose qui n'existe pas au ciel, c'est une assemblée nationale. Parce qu'on ne vote pas au ciel, c'est la théocratie. Dieu décide et tout le monde se soumet et se tait. Ok? Bon, donc soyons clairs. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans leurs imaginations plaintives. Ils sont là, ils se plaignent de ceci, ils se plaignent de cela, ils se plaignent de la condition économique, ils se plaignent parce qu'il fait froid, ils se plaignent parce que le pasteur, il n'était pas si loin que d'habitude, ils se plaignent parce qu'il a mis un costume qui ne leur plaisait pas et une cravate qui était moche. Ils se plaignent tout le temps, les gens se plaignent tout le temps. Ils n'ont aucune vision pour leur vie, et ils n'ont qu'une chose, ils s'occupent des affaires des autres. Vous savez, ne mettez pas votre nez dans les affaires des autres. Ne perdez pas votre temps, mais ayez une vision en disant, moi je vais faire ça pour le Seigneur et je vais être une bénédiction pour le corps de Christ et pour mon église locale. C'est tout. Tu te focalises là-dessus, tu auras mille et un moyens pour que le diable te dise, hé, viens par là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu diras, non, ça ne m'intéresse pas. Psst. Et des gens qui vont te dire, tu sais, tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas t'enorgueillir, tu ne devrais pas, etc., etc. Et tu continues dans ta vision. Quand tu as une vision, tu dois manger ta vision. Tu dois te lever le matin avec ta vision. Tu dois marcher le matin. Tu dois te doucher avec ta vision. Tu vas aux toilettes avec ta vision. Tu manges ta vision. Ta vision fait partie de ton ADN. Hein. Sinon, tu n'arriveras à rien. Tu ne feras jamais rien dans ta vie. Tu seras quelqu'un qui va rester à faire du surplace, à tourner en rond et à juste faire une chose. Si tu vas chauffer une chaise, tu vas chauffer une chaise à CAE. Vous connaissez CAE. Voilà, tu vas prendre une chaise et tu vas la chauffer jusqu'à ton dernier souffle et tu n'auras rien accompli dans ta vie. Si tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu es en train de gâcher toute ta vie. Prends en charge ta destinée en disant non. Je n'accepterai pas ces choses-là. Je vais faire travailler mon imagination selon la volonté de Dieu, bien évidemment. Ça doit être connecté à la volonté de Dieu. Il y a un homme qui a écrit un livre qui a été très très mal compris. Pourtant, c'est celui qui a la plus grosse église du monde, qui s'appelle Yonggi Cho, qui s'appelle la quatrième dimension. Et quand il a écrit cela, beaucoup de chrétiens n'ont pas du tout compris. Ils ont fait n'importe quoi avec ça. Pourquoi ils ont fait n'importe quoi avec ça? Parce qu'ils n'étaient pas enseignés sur la foi. Donc la plupart du temps, ils essayaient d'imaginer des choses qui étaient fausses. Ils imaginaient la Mercedes de leur voisin, qu'ils avaient la clé, au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait plein de bêtises avec ça. Et après, ça s'est calmé, vous voyez. C'est dommage, parce que j'ai relu ce livre il y a quelques années, et j'ai trouvé qu'il était d'une immense richesse. Immense richesse, mais il faut avoir des enseignements sur la foi. Mais ce que Yonggi Cho dit à propos de la foi, entre eux, quand tu as la foi dans ton cœur, tu dois garder ta tête avec ton imagination collée sur ta foi. Parce que si tu ne fais pas ça, ta tête va faire n'importe quoi et ta foi, tu vas l'anesthésier. Tu n'iras nulle part avec ta foi à ce moment-là. Donc, la Bible nous parle de renverser les mauvaises imaginations, si vous préférez. De renverser tout ce qui, dans nos imaginations, vont contraire à ce que Dieu veut, à la manifestation du royaume de Dieu dans notre vie. Si ton imagination est une poubelle, si tu n'as que des images mauvaises, que tu ne changes pas, que tu n'as aucune vision, que ta pensée est une poubelle, je vais te dire une chose, tu ne prospères pas. Tu ne t'épanouiras jamais dans le Seigneur, ni dans ta relation avec Dieu, ni dans ta relation avec les autres. Pour prospérer financièrement, il faut des rendez-vous divins. Et les rendez-vous divins ne se passent pas par hasard. Ça se passe si tu sais utiliser les lois du royaume de Dieu. Donc déjà, il va falloir que tu crées en toi, que tu te crées ta sphère spirituelle, dans laquelle Dieu va pouvoir attirer toutes sortes de choses du royaume, dont la prospérité financière. C'est comme ça que ça fonctionne, le royaume de Dieu. Beaucoup de gens sont complètement hors de sens. Ils prient des trucs, ils essayent de ceci, ils essayent de cela. Moi, j'ai connu des gens, des braves gens, bien gentils. Tant qu'ils n'avaient pas de job, ils étaient à l'église, à toutes les réunions. Le jour où ils ont eu leur boulot, vous les voyez à peine. D'abord, c'est une fois toutes les deux semaines. « Pasteur, je suis fatigué le dimanche matin. Je suis tellement fatigué, pasteur. J'arrive plus à me lever. Puis tu sais, je suis très très occupé. Et puis j'ai eu tellement d'ennuis cette semaine. » Et il commence à s'anesthésier. Si vous n'avez pas une vie d'église locale, fervente, je vous garantis, la prospérité ne tiendra pas. Vous ne rentrerez pas dans la vraie prospérité divine. L'église locale est une pépinière à la prospérité. On va voir. Où est-ce qu'on doit semer? On parlera de la semence. Mais dans la mentalité, l'église locale est déjà une pépinière. Regardez la mentalité de Jésus. Matthieu 17. On va parler de Jésus maintenant. Alors, souvent, quand on parle de prospérité financière, on dit, mais Jésus était pauvre. Hein? Ça, c'est un des arguments qu'on entend. La pauvreté de Jésus. Jésus était pauvre. Ah bon? Moi, je ne lis pas tout à fait ça dans les évangiles. Et il n'avait pas non plus une mentalité de pauvre, nous allons voir. Je vais juste étudier deux passages parce que je pourrais faire plusieurs heures d'enseignement là-dessus. Mais là, je n'ai pas le temps de le faire. Bon, d'abord, pourquoi est-ce que Jésus est né dans une étable? Est-ce que c'est parce que ses parents n'avaient pas d'argent? Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de place. D'accord? Maintenant, quand Jésus va naître, qu'est-ce qu'on va lui offrir? De l'or! De toutes sortes de parfums qui valait une fortune à l'époque. La naissance de Jésus a été entourée de richesses. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces fameux, ce qu'on appelle les rois mages, qui étaient en fait des Arabes, qui apparemment marchaient avec Dieu. On ne sait pas exactement l'origine de ces gens-là au niveau spirituel, mais c'est clair, Dieu leur avait donné un signe, il leur avait parlé spécifiquement. Ils ont fait, je ne sais pas, quelque chose comme 2000 kilomètres ou plus, à d'autres chameaux, avec une caravane. C'était des gens très riches, ces gens-là. C'était pas des gens, vous savez, des gens qui vous donnent un bon paquet d'or, en général, c'est qu'ils sont pas très pauvres. Vous êtes d'accord? Rappelez-vous d'une chose, le pauvre ne peut pas donner au pauvre.
Amen. Je répète, le pauvre ne donne pas au pauvre. Donc, le pauvre ne peut pas supporter le pauvre. Mais c'est le riche qui aide le pauvre. Pensez à ça, pensez à ça. Je suis en train de vous donner des choses ici. Parce que je veux que vous changiez vos mentalités. Vous aider à changer ces mentalités. Donc, la naissance de Jésus même était entourée de richesses. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que le Père savait très bien une chose, c'est que Jésus était menacé. Quand Marie et Joseph sont descendus en Égypte, vous pensez qu'ils ont vécu avec quoi? Vous êtes posé la question un jour? Ah non, vous n'êtes pas posé la question. Vous savez, on lit les Écritures, parfois on se dit, ben voilà, ils sont descendus en Égypte, et puis après, un ange a parlé à Joseph. Il a dit, ça y est, celui qui en voulait à la vie de Jésus, donc à la vie de ton enfant, maintenant il est mort, et puis on revient. Et entre-temps, on n'a pas mangé pendant 10 ans. Ben si, on a mangé. On s'est déplacé aussi. Et ça coûte cher. Vous savez, quand quelqu'un est obligé de se réfugier dans un autre pays, certains, à cause des guerres ici, vous avez été obligé de le faire, ça coûte cher de se réfugier. Et souvent, on laisse des plumes, parce qu'on laisse tout derrière nous, toutes nos possessions. Certains, peut-être, c'est ce que vous avez vécu ici. À laisser tout derrière vous et on vous a tout pillé là-bas. En fait, c'est clair. Les parents de Jésus ont vécu avec quelque chose. Et c'est certainement cet argent dont ils ont dû utiliser. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre subsistance, parce qu'ils sont partis tout de suite. Quand quelqu'un est obligé de se réfugier, c'est qu'il est menacé. Rappelez-vous d'une chose. Nous avons vécu suffisamment de guerres en Afrique pour le savoir récemment. Les gens se réfugiaient parce qu'ils étaient obligés de fuir la guerre, parce que leur vie était menacée. Vous voyez ? Et Jésus, Marie et Joseph ont emporté Jésus d'urgence parce qu'ils étaient prévenus par un ange qu'ils étaient obligés de partir. Donc l'entourage de Jésus, c'était l'entourage d'adoration, l'entourage d'un roi, bien sûr. Un roi, le propriétaire de la terre, vient là où il y a le mauvais gestionnaire. Ouh ! Il y a eu d'ailleurs une confrontation quelque part entre le propriétaire et le mauvais gestionnaire. Vous savez quand cette confrontation a eu lieu ? C'était au moment où le diable a tenté Jésus. Vous connaissez ces passages, c'est pour ça qu'on ne va pas les lire. Quand le diable va tenter Jésus, il va lui dire quelque chose de vrai. Il va dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces royaumes et toute la gloire de ces royaumes. Littéralement, l'autorité de ces royaumes, l'autorité légale, car je les ai reçus. Jésus ne va pas dire, tu mens, Satan. Parce que Jésus savait très bien que l'autorité des royaumes avait été donné à Adam, au diable. Confrontation entre le propriétaire et le gestionnaire, le mauvais gestionnaire. Comprenez quand vous lisez l'Écriture. Ensuite, il y a certains passages. Oh, Matthieu 17, c'est juste un petit passage pour vous montrer un peu la mentalité de Jésus. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, vous savez, dans les villes à cette époque-là, il y avait des portes. Et à chaque fois qu'on voulait franchir une porte d'une ville, il y avait un droit de passage, comme un pont, un péage, si vous préférez. Un péage, un pont, un péage, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà ce qui va se passer. Ils s'adressèrent à Pierre, parce qu'ils voyaient bien que Pierre était le serviteur du maître. Et en général, il faisait toujours comme ça. Et, votre maître, ils lui dirent, ne paie-t-il pas les 2 drachmes, c'est-à-dire le droit de passage. Si, dit-il. Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, Simon, qu'en penses-tu ? Il a posé une question à Simon. Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou les tribus ? De leurs fils ou des étrangers ? Il leur répondit, des étrangers. À partir du moment où il y a un roi sur un territoire, si un étranger vient, il a le droit de percevoir des taxes. Vous voyez ? Parce qu'il est sur son territoire. Et Pierre avait bien répondu. Et voilà ce que Jésus va dire. Il lui répondit, verset 26, donc des étrangers. Et Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, donc des pièces, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà comment Jésus se considérait. Il ne voulait pas être un scandale et faire des histoires. Mais vous pensez que le propriétaire de la terre devait de l'argent à des gens qui lui demandaient du péage ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Jésus n'avait pas une mentalité de pauvre. D'ailleurs, il est dit dans un passage, nous allons le lire, Luc chapitre 6, verset 20, pour voir la mentalité de Jésus. Luc 6, 20. Il y a plein de passages dans l'Écriture. Ça, c'est vraiment une chose que les religieux ont enseigné, que Jésus était pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Vous savez, il a nourri 12 personnes, Jésus. Et croyez-moi, Pierre, il devait avoir bon appétit. C'était un pêcheur de poissons. En général, ces gens-là, vous savez, quand ils rentrent à la maison, ce sont des ogres qui viennent manger, qui veulent beaucoup manger. Donc, Jésus a soutenu, quoi, 12 personnes pendant 3 ans et demi. Dites-moi, chaque année, il y a combien de jours? 365, disons 64, 65. 3 fois 365, ça fait pas mal. Fois 2 fois par jour. Ça représente combien de repas, Madame Pasteur? Ça en fait un paquet, hein? Il faudrait une bonne montagne de tonnes de vivres pour nourrir tout ce monde-là. Fois 12 personnes, plus Jésus, enfin 11 plus 8. Donc 13 en tout, avec Jésus. 13 personnes, 365 repas, fois 2, pour 2 repas par jour, parce que Pierre en voulait au moins 2, si ce n'était 3, c'était sûr. Ensuite, multiplié par 3 ans et demi, si vous avez une calculatrice, ça fait un paquet de repas. Ça en fait des milliers, des milliers, des milliers. Où est-ce que Jésus, il est dit dans la Bible, que d'un seul coup, il priait en disant, « Mon Père, envoie-nous 12 assiettes et une 13e pour moi, s'il te plaît. » Nulle part, vous êtes d'accord. Il dormait bien quelque part aussi. La Bible n'est pas très spécifique sur ce sujet, mais il dormait parfois chez l'habitant, mais pas seulement chez l'habitant. Vous savez, voyager coûte très cher. Il payait les péages aussi, parce que partout, il n'était pas exempt des péages. Là, c'est un exemple que nous avons vu tout à l'heure. Jésus a dépensé beaucoup d'argent pour prêcher l'Évangile, pour son ministère. Où trouvait-il cet argent? Jésus était-il pauvre? Eh bien, nous allons voir que Jésus ne s'est jamais considéré comme pauvre, comme beaucoup le pensent, malheureusement. Regardons dans Luc, chapitre 6, verset 20. On va lire juste un peu plus haut rapidement, verset 17. « Il descendit Jésus avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples, et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. » Verset 18, Luc 6. « Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Ça, les évangélistes, ils disent toujours « Amen » à ce genre de texte. « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, une puissance, littéralement, sortait de lui. » C'était l'onction de guérison. « Et les guérissait tous. » Verset 20. Alors, il est devant une foule. Il leva les yeux sur ses disciples. Et il va dire, « Heureux, vous, les pauvres. » Non, pas vous qui êtes pauvres, madame. Vous, les pauvres, ce n'est pas la même chose, nous allons voir. Car le royaume de Dieu est à vous. Alors ça, c'est un texte que la plupart des gens prennent pour dire que la pauvreté est une bénédiction. Et ce texte ne veut absolument pas du tout dire cela. Je vais vous le dire, je vais vous le montrer. Jésus n'a pas dit, d'abord Jésus n'a pas dit « Heureux, nous, les pauvres ». Il a dit « Heureux, vous, les pauvres ». Quelle est la différence entre les deux, entre nous et vous? Quand tu dis « nous », tu t'inclus. Quand tu dis « vous », tu t'exclus. Jésus a dit « Heureux, vous, les pauvres ». Ok, ça c'est la première remarque qu'on fait sur ce texte. Ensuite, Jésus n'a pas dit « heureux parce que vous êtes pauvres ». Attention, ici dans ce texte, Jésus n'a pas dit « heureux parce que vous êtes pauvres ». Ça veut dire, Jésus n'a pas dit « heureux, la pauvreté vous rend heureux ». Parce que, excusez-moi, la pauvreté n'a jamais rendu heureux. Je peux vous en... La pauvreté, c'est un avilissement de la nature humaine. Quelqu'un qui n'a pas de quoi se soigner, quelqu'un qui voit ses enfants qui sont virés de l'école parce qu'il n'a pas de quoi payer... Vous ne dites pas Minerval, ici vous dites frais de scolarité ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas l'école. Quelqu'un qui se fait virer de chez lui ou qui est obligé de partir parce qu'il avait une très belle maison et qui ne peut plus payer et que les avocats sont en train de saisir sa maison, il n'est pas en train de dire « Alléluia, gloire à Dieu !» Non, il est dans l'humiliation. Dans l'humiliation. La pauvreté humilie les gens, avilie les gens. Et Satan aime bien ça parce que ça ramène l'homme à la condition d'une bête. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Le péché en général le fait. Mais c'est ce que ça fait. Quand quelqu'un n'a pas de quoi se nourrir correctement, ça l'avilie. Quand quelqu'un est toujours en train de dire « je ne sais pas ce que je vais manger demain, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais payer mes dettes, etc. etc. » Cette personne est dans une condition où le diable a la main mise sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme avec le manque. Je vous le rappelle. Je vous rappelle que dans le jardin d'Éden, dans la pensée de Dieu, il n'y avait ni pauvreté, ni manque, ni quoi que ce soit d'autre. Mais il y avait perfection et épanouissement. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc Jésus n'a jamais dit « heureux parce que vous êtes pauvres ». Jamais il a dit ça, parce que la pauvreté n'a jamais été quelque chose qui te permettrait d'être heureux. C'est faux. C'est faux. La richesse ne fera pas de toi quelqu'un d'heureux non plus si tu n'as pas Jésus dans ton cœur et si tu n'as pas la mentalité de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont tristement malheureux parce qu'ils sont rétrogrades, parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils sont devenus riches avec des mentalités stupides. Et c'est ça, je le dénonce clairement. Parce que ça ne va pas. Je vous dis qu'il faut travailler les mentalités en même temps que de travailler notre prospérité. Les gens qui prospèrent, quelles que soient les choses qu'ils ont, quels que soient les dons même de Dieu qu'ils ont, s'ils prospèrent sans changer leur mentalité, ils deviendront des gens stupides. Et ils seront des contre-témoignages qui à chaque fois nous créent des problèmes parce que finalement, on va dire, les gens vont dire, mais vous voyez bien, ces gens qui ont fait ceci ou ces gens qui ont fait cela, soi-disant, ils ont prêché ces choses et finalement, ils ont rétrogradé. Et on prend souvent les mauvais exemples pour s'attaquer aux vérités de la parole de Dieu. Il y a une puissante vérité sur la prospérité financière que le diable n'aime pas entendre, frères et sœurs. Je vous garantis, parce que quand les chrétiens commencent à prospérer, les églises commencent à être influentes. Et quand une église est influente, elle prêche le royaume. Et quand la prédication du royaume est là, ouverte, devant tout le monde, plutôt que d'être obligé de se mettre dans un petit coin, dans une petite salle, dans un petit endroit où il fait bien froid et où on souffre bien, d'un seul coup, l'église émerge et est très influente. Et ça, le diable n'aime pas ça. Le diable a en horreur de voir des églises influentes. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, nous pouvons prêcher l'évangile avec puissance. Donc, il va tout faire pour essayer de bloquer ces choses-là. Quand vous voulez prospérer, vous allez rencontrer des obstacles. Mais n'ayez pas peur des obstacles. Au contraire, faites de vos pierres d'achoppement des marchepieds. Encore une perception des situations. Apprenez à percevoir vos situations d'une façon différente. Quand vous voyez un problème, quel qu'il soit, vous dites, ah, c'est très bien, ça va me permettre de grandir dans le Seigneur et de changer ces situations, de changer ce mal en bien. Quand tu vois ces choses-là, quand tu commences à comprendre, à percevoir tes situations différemment, souvent ce qui va nous bouffer, c'est parce que nous percevons les situations de la mauvaise manière, avec des mentalités qui ne sont pas changées, qui ne sont pas les mentalités de Dieu. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas en train de se gratter la tête en disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec tous ces gens qui sont au ciel ?» Non. Dieu n'a jamais aucun souci. Dieu est un Dieu de solution, ce n'est jamais un Dieu de problème. Donc toi, tu dois apprendre à voir tes situations en regardant toujours la solution. Moi, quand j'ai un problème qui vient devant moi, je cherche toujours, je me dis, quelle est la solution ? Et je la trouve. Je la trouve. Parce que j'ai changé ma mentalité. C'est difficile au début de changer ça. Mais ça, c'est une clé si vous voulez prospérer à tous égards. C'est de changer vos mentalités. Alors ensuite, Jésus va dire quoi ? Il va dire, heureux donc vous, donc pas nous. Non pas parce que vous êtes pauvres, parce que la pauvreté n'a jamais rendu un homme heureux. Mais il va dire, donc heureux vous, donc pas moi. Moi, je ne suis pas dans l'eau. Les pauvres, ok. Il s'adresse à des gens ici, qui sont dans un état de pauvreté. Et il dit, car vous êtes heureux, non pas parce que vous êtes pauvres, mais il dit, vous êtes heureux, car le royaume des cieux vous appartient. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici ? Ah, mon frère, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que, comme on est pauvre, on va avoir toutes nos souffrances sur la terre et on sera heureux dans le ciel. Non, c'est pas tout à fait ça que Jésus a voulu dire. C'est vrai qu'il y a une partie qu'on pourrait interpréter comme ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Jésus était en train de dire, heureux vous, les pauvres, parce qu'au travers du royaume de Dieu, vous allez avoir les lois pour changer votre situation financière et sortir de vos galères. C'est ça que Dieu veut faire. Et c'est là où on va commencer à acquérir la connaissance de ce que Jésus a réellement fait pour nous à la croix. On va faire un petit saut, vous me laissez encore 10 minutes s'il vous plaît, et après je vous libère, mais je veux vous enseigner dans ces choses. Alors, nous allons découvrir, parce que Jésus nous a acquis des lois spirituelles très importantes. Galates 3:13, rapidement. Galates chapitre 3, verset 13. Vous allez découvrir quelque chose qui est très puissant. Galates 3, chapitre 13. Là, nous allons arriver dans le sacrifice de Jésus. Nous sommes en train d'étudier le premier pilier de notre prospérité, c'est la connaissance. La connaissance. Si je ne sais pas ce que Dieu dit dans sa parole, je ne peux pas entrer dans la dimension divine pour ma vie. Parce que la parole de Dieu va pouvoir générer la foi. Là où il n'y a pas de connaissance de la parole. Là où Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de foi. Vous ne pouvez pas accrocher votre foi si vous n'avez pas une parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des chrétiens qui essayent de prier pour certains trucs, etc., à droite et à gauche, et ils ne voient pas le résultat parce qu'ils ne peuvent pas accrocher leur foi. Pourquoi ils ne peuvent pas accrocher leur foi? Parce que ni plus ni moins, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas là où Dieu a parlé. Dieu te parle principalement dans sa parole. Okay? Maintenant, Dieu peut te parler spécifiquement à toi, pour ta destinée. Là aussi, c'est ce qui te permettra de générer la foi. Nous allons parler de la foi dans les prochaines leçons. Hein. On va parler des autres piliers et entre autres celui de la foi. Alors, en fait, dans Galates 3.13, il y a quelque chose qui nous est dit et qui est très important à bien comprendre. La Bible nous dit, Pasteur Fofi, dans la suite des cours, je vais renverser ta théologie, mais je suis désolé. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Remarquez bien qu'il est dit que, il n'est pas dit que Christ nous rachète ou nous rachètera, mais il est dit que Christ nous a rachetés. Ok? Si vous étudiez le grec, vous verrez que c'est ce qu'on appelle un temps aoriste, c'est-à-dire c'est un temps spécifique dans la grammaire grecque qui signifie que c'est une action qui est passée et qui a été complètement achevée. Ça veut dire que c'est fait. Ça veut dire qu'on ne revient pas dessus. On revient pas dessus. Et toi, tu en as le bénéfice parce que ça a été accompli totalement. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de s'accomplir. Ça nous parle de la croix. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham, tout le monde dit la bénédiction d'Abraham, se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Alors, ici, il y a deux choses dont il nous est parlé. Il nous est parlé que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Jésus ne nous a pas racheté de la malédiction de la chute. Parce que là aussi, il y a eu des débordements. On a dit, par exemple, que les femmes enceintes n'auraient plus de douleur d'enfantement parce que nous avons été rachetés. Non, c'est désolé. Mesdames, je crois que vous avez souffert un peu. Je suis vraiment désolé. Nous sommes vraiment en pleurs pour vous, mais c'est les conséquences de la bêtise d'Adam et Ève. D'accord? C'est pas de notre faute à nous les hommes. Amen. Et en fait, la Bible nous dit ici que Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Malédiction de la loi, vous allez la trouver dans Deutéronome 28. Nous allons très brièvement regarder ces passages. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible nous parle de la malédiction de la loi. Et vous vous rappelez dans ce passage de Galates 3.13, afin que nous héritions de la bénédiction d'Abraham. Nous parlerons de la bénédiction d'Abraham un peu plus tard. Mais là, on va parler que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi, vous la verrez principalement dans Deutéronome chapitre 28. Elle est très bien résumée. Et quand vous regardez le chapitre de Deutéronome 28, vous avez les bénédictions de la loi, du verset 1 au verset 14. Et à partir du verset 15, vous avez les malédictions de la loi. Si vous avez du mal à dormir, lisez du verset 1 au 14, mais pas à partir du verset 15, s'il vous plaît. Alors, on va quand même lire brièvement du verset 1 à 14. La Bible nous dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, ça voudrait dire que nous, le peuple de Dieu, nous devrions dominer et non pas être dominés, comme c'est trop souvent le cas. Réfléchissez bien à cela. Aujourd'hui, il y a deux peuples. Le peuple de Dieu, né de nouveau, et le peuple des ténèbres, qui appartient à Satan. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui t'atteindront. J'aime bien ce verbe, être atteint, vous savez, parce que ça vous arrive malgré vous, entre guillemets. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ça t'arrive comme conséquence de ton obéissance à la voix du Seigneur. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche te seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi des ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. La Bible nous dit d'obéir ici. À partir du moment où tu obéis, tu vas voir la puissance de Dieu et quelles que soient les armes qui ont été forgées contre toi, elles ne pourront pas prédominer sur toi. Si tu apprends à vivre selon les règles de la parole de Dieu. Souvent, les gens, vous savez, ils voient Ils disent, le diable fait à préparer des choses contre moi, etc. Mais t'occupe pas du diable. La Bible te dit pas de t'occuper du diable. La Bible te dit de le repousser et la Bible te dit de marcher selon les principes de Dieu. Arrête de t'occuper du diable toutes les 5 minutes. Les gens sont là, le diable est après moi, le diable m'a fait ça. Ah, ce matin, je suis sorti, j'ai glissé sur une peau de banane, donc le diable est encore après moi. Mais les gens sont... Et alors, ils vont témoigner de ça. Ce n'est pas des témoignages, ça. C'est des mauvaises confessions qui vous amènent à créer une spirale autour de vous qui n'est pas la spirale de Dieu ni l'atmosphère de Dieu. Change, mon frère, ma sœur. Alors, ensuite, il est dit, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ordonnera. C'est un ordre à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Vous voyez les entreprises. On parle du business ici. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans toutes ses voies. Verset 12, je saute un petit peu parce que le temps nous manque. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu bénit le travail de nos mains. Si tu mets ta main à rien du tout, la bénédiction de Dieu ne pourra pas couler. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique. Alors c'est bien de confesser, je suis la tête et non pas la queue, mais est-ce que tu obéis? Parce que vous savez, avec Dieu, les chrétiens sont très forts pour réclamer les promesses de Dieu, mais ils ne se responsabilisent pas. Dieu toujours te demande quelque chose pour que tu mettes en place les lois spirituelles qui vont permettre à ce que la bénédiction de Dieu soit attirée dans ta vie. Si tu ne veux pas obéir, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Dans les finances, nous allons voir qu'il y a une obéissance. On parlera de la dîme et on parlera des conditions scripturaires pour planter sa dîme, non pas pour payer sa dîme. Je n'aime pas ce terme de payer sa dîme. Personnellement, je ne l'emploie jamais parce que ça fait penser à un impôt supplémentaire. On n'aime pas les impôts. Hein. Vous voyez ? Et en fait, on verra qu'il y a des conditions. Si vous apprenez à semer dans les conditions de Dieu, il va se passer les choses les plus extraordinaires. On fera une offrande spéciale pour ce bâtiment, pour le bâtiment que vous voulez. On la fera. On va la faire samedi soir. Entre-temps, je vais vous enseigner. Grand silence. Hein. Quand je parle d'une offrande, j'entends vos cœurs qui font... Non. Tu vas apprendre à faire les choses. Mais selon la parole. Vous savez, quand nous avons la connaissance, quand nous obéissons à la parole, nous le faisons en tout état de cause. Et c'est là où ça porte ses fruits. Là où ne ça porte pas ses fruits, c'est quand on fait des choses par ignorance. On est là, bon, on dit, voilà, le pasteur a dit ça, alors je le fais. Bon, c'est bien, nous devons obéir parce que le Seigneur utilise ses serviteurs. Mais d'un autre côté, nous devons comprendre. Dieu nous a donné une tête, c'est pas pour rien. On a souvent dit, la tête. Non, utilise ta tête, comme je le disais tout à l'heure, dans le bon sens du terme. Utilise ton imagination dans le bon sens du terme. Non pas pour pécher, non pas pour faire n'importe quoi, mais le contraire, pour être créatif, selon Dieu. Utilise ta pensée pour la mettre sur les choses que tu vois devant toi. Et pour les mettre en place. Voilà, tout simplement. Alors après, Dieu va dire, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, là c'est la malédiction de la loi, de ce pourquoi nous avons été rachetés en Christ. Et tu ne mets pas en pratique les commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail sur maudit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'auras abandonné. Ça, c'est toute la partie financière. Ensuite, il va parler de l'aspect de la maladie. Et ensuite, verset 25, il reviendra par rapport à tes ennemis. Verset 25. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis, imaginez-vous, te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Oh là là! Et tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Ensuite, il va parler encore des choses qui concernent soit nos mentalités, notre âme, ou les maladies qui vont venir. Et en fait, quand on regarde ici, vous allez découvrir que la malédiction de la loi était dans trois volets. Il y avait trois volets de la malédiction de la loi. Il y avait la malédiction qui était due au péché directement, c'est-à-dire la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Il y avait le côté de la malédiction au niveau du corps, c'est-à-dire de la maladie. Et il y avait aussi la malédiction concernant la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Nous en avons été rachetés. Je vous rappelle que la pauvreté n'est pas attachée à un continent ou à un autre. Vous savez, souvent sur le continent africain, on a dit « il n'y a rien en Afrique ». Aujourd'hui, le discours a changé. On s'aperçoit qu'il y a tellement de choses en Afrique que ça commence à être l'objet de convoitises des Chinois, entre autres. Les petits Chinois nous envahissent en Afrique. Il faut faire attention, ce sont des gens qui sont très païens et très vicieux, excusez-moi de le dire. En tout cas pour ces gens-là qui viennent et qui viennent prendre des choses en Afrique et qui ne font que des infrastructures, des ponts qui vont s'écrouler, des routes qui vont s'ouvrir au bout de trois pluies, etc. Méfiez-vous de ces gens-là. Ok, je tiens à le dire, parce qu'on voit des gens qui vendent des fois leur pays pour pas grand-chose, malheureusement. Et il faut être prudent par rapport à ça. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lorsque Jésus va mourir à la croix, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dont vous aurez la suite demain.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.